La poésie, c'est ce qui doit authentifier ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire le souffle et ce qu'il fait naître.
André Velter.
Vous savez, c'est comme dans les arts martiaux, le tir à l'arc par exemple, on sait très bien que la position juste est d'abord réglée par la position intérieure. C'est le souffle, la maîtrise du souffle qui va vous donner tout le reste.
Ça peut pas faire de mal.
Et je pense que pour la poésie, c'est un peu la même chose. C'est la capacité intérieure d'être en accord avec ce que l'on va dire qui va faire que le poème, en tout cas comme je le conçois moi, va pouvoir toucher les autres et les toucher en plein cœur et pas simplement à l'esprit. La chance de la poésie, c'est qu'elle touche l'ensemble du corps de l'autre.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Ah. Noir. E. Blanc.
Il est des mots qui jamais ne renoncent.
I.
Des mots toujours fervents, rarement érodés.
Rouge.
Des mots droit devant, par-delà l'encoignure des siècles.
U.
Des mots d'entrain, d'élan, de vie.
Vert.
Des mots toxins qui se jouent des tourments.
O.
Des mots de plein cœur qui battent dans le sang.
Bleu.
Des mots de plein vent qui affolent les voiles.
Voyelle, je dirai quelques jours, vos naissances latentes.
Des mots qui enjoignent, qui affament et ravissent. Des mots jamais avares, des mots toujours brûlants, des mots à la hauteur des temps. L'ardeur est de ceux-là, dont l'énergie durable peut se dire dans toutes les langues de la terre.
C'est avec cet éloge de l'ardeur que s'ouvre aujourd'hui la 20e édition du Printemps des Poètes qui se déroulera jusqu'au 19 mars. Initié par Jack Lang en 1999, dirigé pendant 15 ans par l'écrivain Jean-Pierre Siméon, le festival accueille cette année une nouvelle directrice artistique, Sophie Nolot, qui signe ce manifeste exalté sur l'ardeur. Plus qu'un thème littéraire, la poétesse y reconnaît un emblème qui dit à lui seul, je cite, « la passion, la vigueur, la fougue, l'emportement » qui revendique une certaine façon d'habiter poétiquement le monde. Pour fêter son 20e anniversaire, le Printemps des Poètes accueille également un nouveau parrain, passionné de cinéma, de photographie et de cet art de mettre les images en mots qu'est la poésie. Il s'agit de l'acteur Jean-Marc Barr, qui accompagnera plusieurs performances tout au long du mois. Ce soir, pour évoquer l'ardeur en poésie, je serai en compagnie d'une amie, collègue, camarade, pleine d'ardeur, complice de cinéma, une magnifique comédienne qui a le talent de faire danser les mots, elle aussi, Adeline Dermy, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Merci de votre présence. À 30 ans, vous êtes la plus jeune sociétaire de la comédie française. Vous mettez autant d'ardeur dans vos rôles tragiques, comme celui bouleversant de Sophie Talman dans Les Damnés de Visconti, que dans vos rôles de comédie, comme cette joyeuse Zerbinette dans Les Fourberies de Scapin de Molière, toujours dans la maison du grand patron. Ensemble, nous parcourrons cette passionnante anthologie réunie par Sophie Nolot, La poésie à l'épreuve de soi, publiée chez Actes Sud. Nous ferons aussi un détour par quelques autres plumes à l'inspiration tout aussi ardente. Commençons par une grande personnalité du début du XXe siècle qui fut la muse du tout Paris, amie de Proust, Claudel, Colette. Elle réunit dans son salon les plus grands artistes de son époque. En 1922, elle participe à la création du prix féminin. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de la comtesse Anna de Noailles, née en 1876, morte en 1933. Voici l'un de ses poèmes, au ton exalté, qui s'intitule justement « L'ardeur ». Et je vous cède la parole, Adeline.
Rire ou pleurer, mais que le cœur soit plein de parfums comme un vase et contienne jusqu'à l'extase, la force vive ou la langueur. Avoir la douleur ou la joie, pourvu que le cœur soit profond comme un arbre où des ailes font trembler le feuillage qui ploie. S'en aller pensant ou rêvant, mais que le cœur donne sa sève et que l'âme chante et se lève comme une vague dans le vent. Que le cœur s'éclaire ou se voile, qu'il soit sombre ou vif tour à tour, mais que son ombre et que son jour aient le soleil ou les étoiles.
Poursuivons avec un compagnon privilégié du Printemps des Poètes, André Velter. Il a participé à la création de la manifestation en 1999 et fut son premier directeur. grand voyageur, il nourrit son œuvre de plein d'horizons et de plein de disciplines artistiques. Il croise le chemin du théâtre équestre de Bartabas et celui du plasticien Ernst Mignon-Ernest, qui signe cette année l'affiche du 20e printemps des poètes. Si la fonction de l'écrivain est d'être un passeur de mots, voici un poème qui s'intitule justement « Passer la limite », extrait du recueil « Les solitudes », publié chez Gallimard en 2017. Que tout commence s'il n'y a rien par-delà de l'horizon. Que tout se voue corps et âme à plus impossible que soi. Que tout s'en aille tenir, un pari de corsaire sans négoce ni relax. Qui ne voudrait aussi inexplorer que l'infini des mers? Qui n'aurait désir sous les ciels d'étendues immenses et désertes? Partir, partir, partir est une fête fatale où n'est qu'un simulacre. On ne rompt les amarres ni les voiles dans le but d'avoir un but. Cette affaire de destinée et de grande envergure, de vie livrée à cette poussière d'embrun qui lave les portulans et les destinations, quand il faut, coûte que coûte, sacrifier à l'inconnu. Comme on échange le sang de ses veines avec un frère juré, avec un fou, un rêveur, un sans-patrie, un illuminé, un tailleur, un ignorant, un quart d'heure de matelas. Oh, est-ce un capitaine que cela, et sa boussole qui ne connaît plus le nord? Est-ce un guide que cela, qui n'entend guère être payé de ses peines, qui secrètement voudrait aveugler la vigie et ne jamais toucher terre? Il est donc seul à dire la route insensée, qui mène où elle veut, contre raison et marée. Le seul à passer outre mesure et passer la mesure. Le seul à ne pas renoncer, ni savoir d'où lui montent à la tête des refrains au long cours qui ne promettent rien. Continuons dans l'œuvre d'André Velter avec ce poème écrit en souvenir d'une femme, extrait du recueil « Le septième sommet », paru en 1998. André Velter dédie cet ouvrage à sa compagne, Chantal Mauduit, emportée par une avalanche au cours de l'ascension de l'Himalaya. Ils avaient tous les deux le goût de l'aventure et du voyage. Le poème rend ici hommage à sa femme aimée. Himal, si vaste ce cœur sur ce toit du monde, où l'on n'attend rien du destin des hommes, et si vaste l'âme des ciels, des sommets, tu as pris la pente qui défie le temps, qui passe sans escale toutes les latitudes. Tu as mis le sens très au-dessus de toi, pour que danser soit un envol, et ta vie une aventure d'étoiles. Tu as choisi de gagner par la verticale ascendante, le troisième pôle qui déboussole.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Nous avons eu les mêmes rêves, aimer le vent dans les bambous, les bois roulés le long des grèves, les cerfs volants, le sable doux. J'ai chanté l'eau de la rivière, les bras tendus des arbres morts, chercher la source et la lumière, l'orange rose de l'aurore. Quelques enfants dans une ronde m'ont fait revoir toute ma vie. Le grand chapiteau du monde, peut-être aussi le plus petit. Nous avons eu les mêmes rêves, toucher le ciel, aimer l'amour, les nuits d'été gorgées de sève, des gestes tendres au point du jour. J'ai chanté l'or et la poussière, haï la guerre et les tambours. Il y a tant de beaux mystères, je ne veux pas devenir lourd. Il y aura d'autres rêveurs pour dire les belles aux lèvres douces, les volets bleus, la lande en fleurs, les rouges gorges au nid de mousse. Nous n'étions pas toujours poètes, mais voulions vivre à l'unisson. Ne pleurons pas nos soirs de fête, le temps des rires et des chansons. Voici la nuit, le vent se lève, demain sera un autre jour. Rien ne s'en va, suivons nos rêves, tout vole et danse tour à tour. Et si le givre se dépose sur nos chemins de voyageurs, qui aimions les mêmes choses, restons ensemble par le cœur. Et si le givre se dépose sur nos chemins de voyageurs, nous qui aimions les mêmes choses, restons ensemble par le cœur.
Si le voyage est un thème poétique par excellence, c'est qu'il exalte aussi la nostalgie des origines. Écoutons à présent une grande poétesse de la première moitié du 19e siècle, Marceline Desportes-Valmore. Née en 1786 et décédée en 1859, précurseur du romantisme, Baudelaire reconnaît qu'elle fut à un degré extraordinaire l'expression poétique de toutes les beautés naturelles de la femme. Fin de citation. Dans le poème suivant, le ton lyrique cache une douleur profonde. Bouleversée par la mort précoce de ses propres enfants, la poétesse confie à sa terre natale la mémoire d'une de ses filles. Voici un extrait de ce long poème mélancolique où elle fait l'éloge de ses racines. Il s'intitule « Rêve intermittent d'une nuit triste ».
Ô champ paternel hérissé de charmilles, où glissent le soir des flots de jeunes filles, ô frais pâturage où de limpides eaux font bondir la chèvre et chanter les roseaux. Ô terre natale, à votre nom que j'aime, mon âme s'en va tout hors d'elle-même. Mon âme se prend à chanter sans effort, à pleurer aussi, tant mon amour est fort. J'ai vécu d'aimer, j'ai donc vécu de larmes, et voilà pourquoi mes pleurs eurent leur charme. Voilà mon pays, n'en ayant pu mourir, pourquoi j'aime encore au risque de souffrir. Voilà mon berceau, ma colline enchantée, dont j'ai tant foulé la robe veloutée. J'y rampai débile en mes plus jeunes mois, et je devins rose au souffle de vos bois. Ô patrie absente, ô féconde campagne, où vinrent s'asseoir les ferventes Espagnes, antique noyer, vrai maître de ces lieux, qui versait tant d'ombre où dorment nos aïeux, écho tout vibrant de la voix de mon père, qui chantait pour tous « Espère, espère, espère ». Ce chant, apporté par des soldats pieux, ardents à planter dents de croix sous nos cieux, tant de hauts clochers, remplis d'airains sonores, dont les carillons les rappellent encore, je vous enverrai ma vive et blonde enfant, qui rit quand elle a ses longs cheveux au vent. Parmi les enfants nés à votre mamelle, vous n'en avez pas qui soit si charmant qu'elle. En la soulevant par ses blanches aisselles, j'ai cru, bien souvent, que j'y sentais des ailes. Ce fruit de mon âme, à cultiver si doux, s'il faut le céder, ce ne sera qu'à vous. Du lait qui vous vient d'une source divine, gonfler le cœur pur de cette frêle ondine. Le lait jaillissant d'un sol vierge et fleuri lui paiera le mien qui fut triste et tari. Pour voiler son front qu'une flamme environne, ouvrez vos bluets en signe de couronne. Des pieds si petits n'écrasent pas les fleurs et son innocence a toutes les couleurs. Un soir, près de l'eau, des femmes l'ont béni et mon cœur profond soupira d'harmonie. Vervoni, chanteur, laissez-la donc aller. L'enfant sait déjà qu'il naisse pour voler. Déjà son esprit, prenant goût au silence, monte où sans appui l'alouette s'élance et s'isole et nage au fond du lac d'azur et puis redescend le gosier plein d'air pur. Que de l'oiseau gris l'hymne haute et pieuse rende à tout jamais son âme harmonieuse. Avant de gagner sa couche de fougère, laissez-la courir, curieuse et légère, au bois où la lune épanche ses lueurs, dans l'arbre qui tremble inondé de ses pleurs, afin qu'en dormant sous vos images vertes, ses grâces d'enfant en soient toutes couvertes. Des rideaux mouvants, la chaste profondeur maintiendra l'air pur alentour de son cœur. Et s'il n'est plus là, pour jouer avec elle, de jeune Albertine à sa trace fidèle, vis-à-vis les fleurs qu'un rien fait tressaillir, elle ira danser, sans jamais les cueillir, croyant que les fleurs ont aussi leur famille et savent pleurer comme les jeunes filles. Ainsi s'en ira, calme et libre et content, ce filet d'eau vive au bonheur qui l'attend. Et d'un chêne creux, la madone oubliée la regardera dans l'herbe agenouillée. Quand je la berçais, doux poids de mes genoux, mon chant, mes baisers, tout lui parlait de vous. Ô chant paternel hérissé de charmille, où glissent le soir des flots de jeunes filles. Que ma fille monte à vos flancs ronds et verts, et soyez bénie, doux point de l'univers.
Découvrons à présent l'un des grands admirateurs de Marceline Desportes-Valmore, l'écrivain Christian Bobin. Souveraineté du vide, éloge du rien, l'auteur est connu pour sa poésie en prose et son style fragmentaire. Voici une lettre passionnée où l'écrivain développe une véritable déclaration d'amour à l'attention de Marceline, bien sûr, mais aussi à l'égard des livres et de la poésie en général. Voici ce manifeste amoureux pour la lecture, extrait du recueil « La Grande Vie » publié en 2014 chez Gallimard. « Chère Marceline Desportes-Valmore, vous m'avez pris le cœur à la gare du Nord. Il faisait froid, il y avait tellement de monde et en vérité personne. J'ai cherché un abri, un lieu humain, je l'ai trouvé. Le dos appuyé contre un pilier, j'ai ouvert votre livre et j'ai lu votre poème « Rêve intermittent d'une nuit triste ». Je l'ai lu 4 fois de suite. Il n'y avait plus que la lumière rose de votre chant, ce rose que Rimbaud vous a volé, entrant dans votre écriture comme un pilleur de tombes égyptiennes. Qu'importe, vous revoilà, intacte et régnante par votre cœur en torche. La vie avec vous a été d'une brutalité insensée. Plus ses coups étaient violents, plus votre chant s'allégeait. Votre amour a triomphé de vos assassins. Il ne voyait pas que vos larmes étaient de feu. Je lisais, je lisais, je lisais. Votre poème avait fait disparaître Paris et le monde. Il n'y a que l'amour pour accomplir ce genre de miracle. La grâce de vos images jetait sur mon visage des reflets de rivière. Et ce rose, mon Dieu, comme c'était beau, d'une beauté de noisetier, de soleil dans ses limbes. Si je vous vois en rose, c'est parce que cette couleur n'entre jamais en guerre et semble toujours au bord de défaillir dans l'invisible. Vous lire ainsi debout dans le froid d'une gare, c'était une déclaration de vie, une échelle plantée sur le sol, appuyée sur le ciel. Votre voix m'arrive avant les mots qu'elle porte. Vous lire, c'est regarder le poitrail de l'oiseau qui se gonfle. Vous savez, cette joie atomique qui lui monte à la gorge juste avant de chanter. Nous sommes revenus ensemble au Creusot. Les livres agissent même quand ils sont fermés. Les voix, chère Marceline, ce sont les fleurs de l'éternel mises dans notre bouche. Elles fleurissent notre crâne de mort à venir. Elles ne s'éteignent pas avec nous, elles s'éloignent. Et c'est le travail du poème que de les faire revenir près de nous. La voix de mon père avait quelque chose de la croûte d'un pain chaud. Elle s'ouvrait, se donnait, était par elle-même nourricière. Votre voix à vous, le chant d'une rivière inquiète qui ne dort jamais. Ce n'est pas une image. Je vais chercher là-bas de quoi éclairer ici. C'est ce qu'on appelle poésie, n'est-ce pas? Il faudrait un autre nom, ou même aucun. Et simplement dire, croyez-le ou non, mais en entendant le chant de la rivière dans le bois de Saint-Sermain, j'ai vu un livre plus beau que tous les livres. Il était signé Marceline et s'écrivait « Avant ma naissance, après ma mort, tout le temps et toute l'éternité ». Chère Marceline Desbordes-Valmore, vous m'avez pris le cœur à la gare du Nord et je ne sais quand vous me le rendrez. C'est une chose bien dangereuse que de lire. Poursuivons le thème du voyage et embarquons pour de nouvelles sensations. Découvrons un autre poète contemporain, Marcel Moreau. D'origine belge, né en 1933 dans une famille ouvrière, il fréquente les artistes Jean Dubuffet, Anaïs Nin, Roland Topor et Pierre Alechinski. Voici un petit instantané poétique, extrait du recueil « Souvenirs d'immensité avec trouble de la vision », publié aux éditions Afuyenne en 2007.
Ni TGV, ni tortillard, le train roule à la juste vitesse, celle des mots qu'il faut pour dire les impressions fuyantes, les torpeurs magnétiques. Dans ma tête, une écriture court, bondit, s'abat, me revient, trempée de pluie. Ce train a la cadence qui convient aux pensées dévorantes comme aux voluptés languides. Euphorie et déploration se chevauchent, s'en mêlent, se dénouent d'un village à l'autre, de toundra en taïga. Flèche. L'esprit se fiche tantôt dans un flou, tantôt dans une certitude. Il ramène à lui une dissipation de nain aussi bien qu'un géant ostensible. J'ai même vu un soleil bronzer des hameaux transis. C'était comme une tendresse tombée du ciel, la lumière qui habille la flaque et livide. Étincelée pour ses eaux, ses pâlir en beauté, monter du réel à l'irréel. En ce moment de l'année, le soleil ne réchauffe pas, mais sa caresse relève les formes affalées, redresse celles qu'on croit accroupies, lèche celles que l'on pense englouties. Il ne darde pas, mais les perles qui dansent à la pointe des feuilles et l'argenture nouvelle sur les écorces blêmes, c'est lui. C'est miraculé de la sève qui défile, c'est encore lui.
Je suis possédé par l'écriture.
Marcel Moreau.
Comme on est possédé par une terre, comme on est possédé par un contexte géographique, historique. Là, moi, ma terre, c'est l'écriture. C'est une terre, bien sûr, c'est une terre infernale aussi. C'est pas quelque chose de reposant. C'est un pays hostile aussi. C'est un paysage hostile. Mais c'est là que je m'enracine, c'est là que je suis possédé. La démarche spécifique est la mienne, c'est-à-dire la descente dans les profondeurs, dans les ténèbres, ça ne peut pas aller non plus sans des problèmes posés par l'écriture même. L'écriture en veut toujours plus. Il y a un mouvement, un engrenage effarant.
Évoquons à présent un autre grand thème classique par excellence, la célébration de la nature. Découvrons une autre poétesse contemporaine, son nom de plume est Maximine. Elle est née en 1952. Enseignante en lettres, elle publie en 2002 aux éditions Arfuyenne un cahier de pivoine. Écoutons deux extraits de ce long poème de plus de 1000 vers qui évoque le miracle toujours recommencé du printemps. Trinquant à la santé du bleu, rouges appels aux véhémences, de quel feu êtes-vous semence, pivoine née coiffée des dieux? On dit que les printemps sont doux. Je dis, moi, et je suis poète, qu'ils sont un peu comme vous êtes, excédés, farfelus et fous. Mais quelle est noble leur folie, grandiose votre douleur, tragédienne entre les fleurs, il faut mourir, aimons la vie.
Rose comme un début d'amour, rouge comme une frénésie, pourpre un trou d'où le sang jaillit, blanche tout s'oubliera toujours. Blanche, je n'ai rien oublié. Pourpre, c'est mon sang, ma colère. Rouge, il y a trop de misère. Rose, j'aurais voulu t'aimer. Si gonflée de vie qu'elle craque, un rayon de soleil de trop. Poème pivoine de mots, puis la chute comme une claque.
Il pleut sur les mers et ça sert à rien qu'un noyé debout, le gardien du phare. Le phare, il y a beau temps qu'il a plus de gardien. Tout est électrique, il peut bien pleuvoir. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche. Il pleut sur la mer, et c'est inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu. Les mouettes s'ennuient, blotties sous les tuiles. Il tombe du corps et l'eau s'est pendue. Aux plus hautes branches de la Manche. Sur la mer, et ça sert à rien et à rien. Mais quoi sert à quoi? Les cieux, c'est leur droit d'avoir du chagrin. Des nuages indiens vident leur carquois. C'est l'été comme un sur la Manche. Il pleut sur les mers, et c'est imbécile à croire que la mer se pisse dessus. Sa borde, ses ports, ses remparts, ses îles. T'as l'air d'un moineau sur mon par-dessus. D'une corneille blanche sur ma manche. Il pleut sur la mer et ça nous ressemble. De l'eau dans de l'eau, c'est nous tout cracher. Et nos yeux fondus aux yeux de septembre regardent rouler ses larmes gâchées. Curieuse avalanche sur la Manche. Il pleut sur la mer, c'est con comme la pluie. Peut-être c'est nous qui sommes à l'envers. L'amour a des nœuds pleins, s'amuse en pluie. Ça nous fait marrer, il pleut sur la mer. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Écho de la nature, le poème se fait aussi musicien. Après le poème pivoine, voici le poème pianiste. Quittons le style chromatique de Maximine et faisons place à la musique des mots avec l'écrivain Jacques Darras, qui fut longtemps le directeur de la Maison de la Poésie à Paris. Né en 1939 en Picardie, l'auteur se passionne pour les cours d'eau de sa région et leur consacre 8 volumes de poèmes qui constituent une œuvre singulière, comme un hymne à la poésie fluviale. Voici un extrait de son dernier recueil, L'indiscipline de l'eau, publié en 2015 chez Gallimard. S'il n'y est pas question de rivière au sens propre, il y évoque un personnage pour le moins insolite, bouillonnant d'inspiration. Voici cet étrange objet poétique intitulé « Position du poème ». Il est assis, il a les genoux pliés, il voit le monde. Il voit des fleurs de trèfle blanche, il voit un toit de tuiles rouges, il voit un carré de ciel gris, il ne voit pas le monde. Il est le monde à lui tout seul. Il peut changer de place, il peut se lever. Il pourrait s'éloigner de sa table, il irait dans la cuisine, parmi les couteaux métalliques, parmi les fourchettes acérées, parmi les casseroles bouillantes. Il se couperait une tranche de monde, il mordrait dans le monde à belles dents. Ici, il voit le monde sur un clavier. Il écrit une partition. La partition s'appelle le monde. C'est une partition en sol mineur, en ciel majeur, en tuiles diésées, en trèfle blanc, en genoux pliés. Les touches du clavier sont noires. Ne touchez pas aux touches, s'il vous plaît. Le poème est assis. Le poème est en train de s'écrire. Il est interdit de parler au poème. Do not disturb. Non, ce n'est pas de l'anglais. Le poème est écrit en français. Attention, le poème se lève. Ne restez pas dans ses jambes. Le poème est sorti. Le poème laisse son fauteuil vide. À la place du poème, on voit ce qu'il voyait. On voit des fleurs de trèfle blanche. On voit un toile de tuiles rouges. On voit un carré de ciel gris. On voit le monde. Tout à coup, on voit passer le poème. On le voit passer de sa place, de la place où il s'assied. Il ne nous voit pas. Il ne voit pas qu'on est assis à sa place. Il ne voit pas qu'on le voit. Le poème est dehors. Le poème est derrière la vitre. On ne sait pas ce qu'il voit. On le saura à son retour. Le poème revient. Le poème ne s'éloigne pas. On ne connaît pas de poème qui soit jamais parti. Définitivement. Pour toujours. Cela ferait un vide. Le poème est domestique. Le poème est sauvagement domestique. Il ne tient pas en place. Il tourne sur place. Il tourne sur lui-même. Attention, le poème va rentrer. Le poème rentre. Il a l'air d'un poème qui a pris l'air. Il est inspiré. Il plie les genoux. Il se carre dans son fauteuil. La paille crisse. Il pose les doigts sur le clavier. On entend la musique des touches. C'est un ravissement. Je ne connais rien de plus beau que la musique des touches. Écoutez. Découvrons une nouvelle métamorphose du poème, le voici qui s'improvise comme jeu de plage. Né à Toulouse en 1950, inspiré par le chamanisme et ses voyages au Mexique, Serge Pey développe une poésie orale et sonore, proche de la transe, qui s'apparente à l'ethnopoésie. Voici un extrait de l'un de ses derniers recueils, La Sardane d'Argelès, publié en 2014 aux éditions Dernier Télégramme. Après le poème pianiste, voici le poème qui joue à la marelle. Jouons ensemble, si vous voulez bien, Adeline Dermy. 1.
Nous comptons deux fois.
2.
Nos pas courts.
3.
Au bout de nos sandales.
4.
Puis encore deux fois.
5.
Nos pas longs.
6.
Et encore les courts deux fois.
7.
Et les longs quatre fois.
8.
Jusqu'à compter les pieds.
9.
De l'infini.
10.
Puis encore deux fois.
11.
Pour être plus grand.
12.
Que le nombre du sable.
13.
Qui compte nos pieds.
14.
Deux fois nos pas courts.
15.
Et deux fois nos pas longs.
16.
Pour allonger l'infini.
17.
D'un pas plus grand que lui.
18.
Nous comptons nos pieds nus.
19.
Jusqu'aux pieds nus.
20.
Des morts qui dansent à l'envers.
21.
Dans nos épaules.
22.
Et encore 4 fois nos pas courts.
23.
Les bras baissés.
24.
Et 6 fois nos pas longs.
25.
Les bras levés.
26.
Sans nous arrêter.
Le poète est un passeur.
Serge Pey.
Passeur dans le sens où le visible existe et l'invisible existe. Et c'est ce rapport entre le visible et l'invisible que doit opérer, que doit traiter comme un chirurgien ou comme un sorcier, le poète. Celui qui parle, c'est jamais le poète, c'est toujours l'autre. Quand Rimbaud dit « je » est un autre, c'est l'autre qui parle. Et cet autre, il nous passe en nous. Je crois que nous ne sommes que des passants ou des passeurs, et que le monde lui-même est un passeur, et que la grande lecture que nous pouvons déceler est la lecture du passage. Un poème est toujours un passage.
Ludique, l'écriture contemporaine se joue des formes. Découvrons à présent un autre genre poétique, le haïku. D'inspiration japonaise, cette forme rythmique s'émancipe des sujets classiques. Elle se fait désormais le reflet de la vie urbaine. Voici quelques instants volés, croqués avec malice par le poète Ben Kouder, né en 1973. Parcourons quelques scènes ordinaires auxquelles il insuffle une ardeur amoureuse, voire érotique. Extrait de son recueil « La revanche des petits riens », publié en 2017 aux éditions Unicité. Improvisons ce petit duo si vous voulez bien, chère Adeline.
Verger en fleurs, à l'abri de regards, nos ombres se mélangent.
Garde Austerlitz, elle me rend mon sourire, une petite victoire.
Soleil de printemps, un militaire en goguette sifflote, imagine.
Chute de rein, je me plie aux lois de l'attraction.
Happy hour, les cacahuètes et ses yeux, je ne peux plus m'arrêter.
Fétichisme, je dérobe l'oreiller sur lequel elle rêve.
Bassin contre bassin, nos corps en nage synchronisés.
Soir de printemps, l'ascension par la face nord de sa robe à fleurs.
Bain de minuit, l'amour a le goût du sel.
Du bout des lèvres, au bout du compte et du quai, l'embrasser enfin. Restons dans l'univers citadin. Nous voici à présent en compagnie d'un grand monsieur des lettres françaises, ami de Raymond Queneau et de Georges Perec, membre toujours actif du mouvement de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Il s'agit du poète et mathématicien Jacques Roubaud, né en 1932. Arpenteur des villes, il fait un éloge fantaisiste de la rue d'Amsterdam. Voici ce poème virtuose qui jongle avec l'absurde. Nous le lirons encore une fois à deux voix. Extrait du recueil « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains » publié chez Gallimard en 1999. La rue d'Amsterdam descend et remonte, monte et redescend, ainsi fait ma rue. Je monte ou descends la rue d'Amsterdam, je descends ou monte d'Amsterdam la rue.
On dit qu'on descend, on dit qu'on remonte, les rues descendantes, les montantes rues. On le dit aussi des rues hésitantes, on le dit aussi des plus plates rues.
On monte les rues sur leur macadam ou par leur trottoir, on descend les rues. Ainsi, je descends ma rue d'Amsterdam, ainsi, moi, je monte d'Amsterdam la rue.
Qu'est-ce qui descend, qu'est-ce donc qui monte, que ça descende ou pas dans toutes ces rues? Sont-ce les maisons qui montent ou qui tombent vers le bas des rues?
Que c'est les maisons, ça se voit, ce nombre, qu'elles ont sur la porte au bord de la rue. Quand la rue descend, descend les nombres, et les nombres montent quand monte la rue.
Mais pourquoi dit-on que les nombres montent, grimpant de zéro jusqu'à l'infini? C'est parce que les nombres font une rue de nombres, la rue des entiers plus longue que les nuits.
Très longue est la rue, la grande rue des nombres, la grande rue abstraite qui jamais ne finit. On monte, on descend, on compte, on recompte dans la nuit du monde où tout nombre est gris.
Mais peut-être nos rues ne sont que des ombres de nombres jetées par les pluies, de tout petit bout de la rue des nombres, où monter, descendre pour toute la vie.
La poésie, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée qui chante. Dès qu'on a cette idée de pensée qui chante, de pensée sonore, on peut voir là, la singularité de la poésie et la façon dont elle peut toucher.
Zeno Bianu.
Et pas simplement, j'allais dire, avant même toute configuration intellectuelle. C'est-à-dire, ça vient après. Vous vous souvenez de Breton quand il parlait de cette sensation d'aigrette aux tempes dès que quelque chose se passait ou dès qu'il découvrait un peintre ou lorsqu'il entendait une phrase dans un café et tout d'un coup, ça vibre. Nous vivons complètement pour ces moments-là.
Sortons du labyrinthe des villes en compagnie d'une célèbre fillette. Voici une réécriture du personnage d'Alice au Pays des Merveilles, qui a grandi et mûri maintenant. Cet hymne à l'imaginaire est né de la plume du poète Zeno Bianu, dont l'œuvre singulière croise le théâtre et le jazz. En 1992, il a signé l'adaptation d'une pièce montée dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, Le Chevalier d'Olmedo de Lope de la Vega, avec Jean-Marc Barr dans le rôle titre. Écoutons ce poème au féminin. Alice, extrait de son dernier recueil d'un univers funambule édité en 2017 chez Gallimard. Nous y retrouvons un écho de notre mot d'ordre poétique, l'ardeur.
Alice n'a plus peur des temps obscurs. Elle franchit à nouveau les eaux du miroir. Elle avance pour vivre plus vif, vivre plus vrai, vers son réservoir à comètes, sa fabrique d'univers. Elle dit... Il fait décidément un temps de ténèbres. Et si nous sortions vraiment de nous-mêmes pour y voir plus clair dans le grand puzzle de l'existence? Mourir à soi est une chance, une grande chance. Vivre à cette vitesse, si proche de la lumière, est un bonheur, un frémissement, aux confins de la gorge. Elle dit, le chaos est mon ami, le chaos est mon frère. J'en appelle à sa toute folie, j'accompagne son devenir, je traduis sa mouvance. Sans relâche, sans recours, je m'ouvre au firmament, je donnerai tout, tout pour ce frisson d'espace-temps. Partout des voix chuchotent, deep space, deep space, deep space. Il faut puiser là, en voltiges imprévisibles, directement là, où c'est toujours la première fois, au fond de notre substance étoilée. Alice retraverse les eaux, des billes d'azur plein les poches, myriades d'ailleurs absolues, bouquets de roses insoupçonnées. Loin, si loin de la non-vie, si loin du non-amour, à cœur ouvert, à cœur dénoué, incandescente et apaisée, elle chemine dans les hautes forêts liquides. Elle avance, vertigineuse, en fulgurance native, explorant ses pierres de rêve. C'est un corps céleste en révolution, avec sa vigueur mélancolique, son sonar de cristal pour capter la moindre immensité, échapper à ceux qui restent collés au sol, rejoindre la confrérie des grands isolés. Elle avance, elle remonte très haut, très loin, par des dispositifs enchantés, vers les anciens sommeils. Elle se faufile, irrésistiblement, en état d'écoute extrême, vers l'étoile polaire de l'esprit. Alice retraverse les eaux, dans un surcroît d'ardeur, vers le jour absolu.
Toutes les vérités seront bonnes à entendre et seront bonnes à dire. Je ne crains pas le mal et me méfie du bien. Les normes sont bien pires. Apaiser. Dans la glace, fusionnelle face à face, je découvre l'été. L'été sans fin, 180 degrés d'immense liberté, de chaleur m'envahissent. Comme un frère, celui que je suis vraiment, et sa rage de vivre, l'inconscient, peu à peu se déleste, les souvenirs épars, dispersés au hasard, je découvre l'été. Sans fin, un sentiment d'éternité. Je découvre l'été. L'instant est symbolique. Pour qu'une collision épidermique ait lieu, somptueuse et limpide, je suis prêt. Je me sens fort et libre. et je reçois. Mes ailes se déploient, je découvre l'été. L'été sans fin pour l'éternité. Avec toi, l'été sans fin.
Allons à la rencontre du monde et de son chaos. Synonyme de passion, l'ardeur est aussi cette force de vie qui permet d'affronter les épreuves extérieures. Chez le poète, l'ardeur s'incarne dans le langage, ce pouvoir des mots à se saisir des choses, même les plus tragiques. Découvrons cette force expressive chez le poète Franck Venaille, né en 1936. Son dernier recueil, Requiem de guerre, publié en 2017 au Mercure de France, a été salué par le prix Goncourt de la poésie. Ouvrons l'un de ses ouvrages précédents, La bataille des éperons d'or, paru en 2014. Dans l'extrait suivant, sa prose s'empare de la violence du monde. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Chaque jour, je parcours des distances infinies qui me font traverser les anciennes frontières. Mon but, aller voir comment fonctionne le monde. J'en reviens chaque fois brisé. L'état de guerre n'en finit pas. À terre, les corps encore, copeaux de chair, lourds sacs, déserteurs aux membres là. Alors que du ciel, le soleil noir, le soleil aveuglé, tente de s'extirper. Tremblement, la consigne est toujours la même, pas de prisonniers. Alors le glaive, mais que ferai-je de ma vie lorsqu'il sera devenu noir de sang? Dois-je l'avouer? Je suis désespéré et me retrouve quoi? Enfant, que s'est-il passé autrefois que je n'ai pas compris, jamais admis? Pourquoi ce sang? Le rouge, couleur du combat mené contre les forces du malin. Mais que les mots parviennent jusqu'à moi, ils deviendront nos alliés, chacun. Enfin, considérez le langage comme l'arbre de la connaissance. Chaque jour, chaque fois que l'animal en moi s'exprime, quel ermite pourra me conduire sur le chemin rainant des petites aubes? Que les mots tiennent tête à la lumière artificielle sortant des marécages. Que peut l'art dans cela? D'où lui viennent ses pouvoirs? Quoi? Je me tiens devant vous et je dis j'ai le pouvoir de donner et celui de reprendre. Pour conclure cette émission, quittons le chaos du monde et allons dans les rêves, ceux d'Abdelatif Lahabi. Extrait de son recueil « L'arbre à poème, anthologie personnelle » publié chez Gallimard en 2015.
Dans mon réduit, je me suis amusée à ranger mes idées, à faire le tri dans mes rêves. En voici quelques-uns que j'ai d'abord hésité à garder.
Jouer à la roulette en compagnie de Dostoïevski.
Aimer sans que le désir y soit pour quelque chose.
Me réveiller un jour parlant toutes les langues du monde. Boire, ce qui s'appelle boire, sans fumer.
Pêcher à la ligne les poèmes des peuples disparus.
Faire pousser un magnolia dans le jardin de la maison que je n'ai pas eue.
Attendre à la porte de l'école la dernière de mes filles nées et la raccompagner à la maison.
Dire à ma mère de son vivant, je t'aime.
Extraire les balles qui ont troué le corps de Che Guevara. Refermer ses blessures, lui caresser le front et lui murmurer en toute confiance « Lève-toi et marche ».
Persuader Sisyphe qu'il a été victime d'une erreur judiciaire.
Faire aboyer le mot « chien », n'en déplaise au poète ami.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Delphine Baudet. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Un grand merci à Sophie Nolot et à Christine Delterme du Printemps des Poètes. Un grand merci à vous aussi, Adeline Dermy. On vous retrouvera bientôt à partir du 31 mai sur la scène du Studio Théâtre de la Comédie Française dans Les Créanciers de Strindberg, mis en scène par la talentueuse Anne Kessler.
Merci Guillaume.
Merci à vous. Bonne soirée et à la semaine prochaine.